France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Leur corps est ici, mais leur âme est en Iran. Même s'ils ne sont jamais allés dans le pays de leurs ancêtres, les Iraniennes et Iraniens de France vivent à Shiraz, à Rasht, à Téhéran, à Kashan. Ils souffrent et pleurent dans 20 villages d'Iran. Tout comme ceux de l'intérieur, ils savent se dédoubler. Ils ont appris cette schizophrénie-là. Depuis le 28 décembre, le premier jour des manifestations de 2025-2026, comme lors du mouvement « Femmes, vie, liberté », ils ont littéralement mis leur vie entre parenthèses. Ils se sont d'abord accrochés aux réseaux sociaux et aux communications avec leurs proches, pleins d'un espoir qu'ils ignoraient illusoire, entretenu de façon criminelle par des promesses non tenues et de toute façon absurdes. Puis, après le blackout, ils se sont mis en quête de bribes d'informations qu'ils ont découvertes de plus en plus horribles, de plus en plus sanglantes, cyniques, atroces. Et la plupart sont tombés véritablement malades, paralysés d'effroi, d'impuissance et de rage, mis à terre par l'horreur de ce qu'ils découvrent peu à peu. Des milliers de morts, peut-être des dizaines de milliers, des blessés achevés dans des hôpitaux, des morgues improvisées, le chantage pour récupérer les dépouilles, les manifestants abattus en plein défilé avec des silencieux tombant au ralenti. Alors, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est hurler au monde entier leur tristesse et leur colère. Be their voice, devenir la voix de ceux et celles qui sont réduits au silence, avec le même espoir, un matin viendra. Pauline Chanu a rencontré trois femmes qui racontent à la fois l'espoir, l'effroi et les divisions des Iraniens d'ici et qui sait de là-bas.
Je m'appelle Somayeh Rostampour. Je suis chercheure militante féministe kurde de l'Iran. Je suis en France depuis 2014 et je suis exilée et du coup je milite aussi sur la scène parisienne depuis mon arrivée, à la fois pour la cause kurde, la cause des femmes et aussi des minorités en Iran, des personnes queer, etc. et aussi pour la justice sociale, c'est-à-dire la cause de gauche. Moi je viens d'une famille de classe populaire, mes parents ils sont au Kurdistan. Ma mère, elle était femme de foyer. D'ailleurs, elle est décédée et je n'ai pas pu la voir et c'était horrible. Et du coup, mon père, il est commerçant, un simple commerçant qui a un shopping. J'ai grandi au Kurdistan de l'Iran, dans une petite ville qui s'appelle Pavé. C'est une petite ville de 30 000 habitants à peu près, à la frontière de Kurdistan iranien et irakien. Et très proche de la montagne où il y a aussi des combattants kurdes. C'est les montagnes de Zagros. C'est hyper joli, hyper vert, mais c'est tout petit. Et du coup, jusqu'aux 18 ans, j'ai grandi là-bas. Et depuis 18 ans, j'étais à l'université de Téhéran en tant qu'étudiante en sociologie pendant 8 ans. C'est là où j'ai commencé à me politiser parce que je ne viens pas d'une famille forcément politisée et c'est rare au Kurdistan. Quand je dis politisé, par exemple, il n'y a pas dans ma famille les gens qui ont été exécutés par le régime. J'ai commencé mes études et je suis arrivée à Téhéran quand il y avait arrivé au pouvoir d'Ahmadinejad. C'était déjà en crise politique et je me suis politisée au sein de mouvements étudiants. J'étais dans la fac la plus politisée du pays, où il y a toujours, même aujourd'hui, beaucoup de prisonniers politiques parmi les étudiants. Et je n'ai jamais arrêté depuis. J'étais un peu embêtée aussi. On t'interroge sur tes activités politiques. Et d'autant plus que j'étais kurde, c'est deux fois plus puni. Un étudiant kurde, c'est pas pareil qu'un étudiant non kurde. Et finalement, en 2014, j'ai décidé de quitter le pays pour poursuivre mes études en France. On attendait une révolte en Iran. On savait qu'à n'importe quel moment, on va avoir très prochainement une autre révolte. Une révolte massive. Parce qu'on est en contact régulier avec les gens en Iran. On sait qu'ils ne peuvent pas vivre. Économiquement, ce n'est plus possible. Depuis l'invasion d'Israël envers l'Iran, du coup, le mois de juin, il y a plus de 40% d'inflation. C'est juste énorme pour la population. Moi, je fais partie d'un média clandestin aussi, où on publie des informations. sur l'Iran. Et du coup, le 28 décembre, on a publié une vidéo de rappeur et musicien très connu, Thomas Salehi, où il parle comment, depuis le matin jusqu'au soir, le prix des œufs, ils ont changé 10 fois dans la même journée. Et du coup, la journée a commencé avec cette vidéo. Du coup, tout le monde était en alerte que la situation, ça devient de plus en plus insupportable pour les gens, la colère, la rage. Et l'après-midi, on entend, les gens, ils ne sont pas contents, ils sont dans la rue, à Téhéran. Et c'était surtout les commerçants de centre de Téhéran. Il y avait une petite méfiance parce qu'au bazar, c'est quand même les commerçants plutôt de classe moyenne et même parfois classe supérieure. C'est les gens historiquement proches du régime qui n'ont pas participé aux révoltes précédentes. Ce n'est pas vraiment les gens le plus touchés par cette crise économique aujourd'hui. Mais en même temps, si bazar, ils se révoltent, c'est-à-dire on peut imaginer la situation de classe populaire. Pour moi, c'était un signe clair que voilà, la révolte, ça commence.
Pour la 3e journée consécutive, des commerçants du bazar de Téhéran ont fermé boutique et les étudiants de la capitale ont décidé de rejoindre la contestation. À l'origine de ce mouvement, la dégradation de la situation économique qui pèse sur...
Ils ont fermé leurs shops et ils sont allés dans la rue en disant qu'on ne peut plus travailler. Ce n'est pas possible. On ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter. Les prix, ils changent chaque 2 heures. On ne sait pas quoi faire. Et il y a des autres gens qui les rejoint petit à petit. Et Téhéran, il faut savoir, c'est un métropole immense. Il y a à peu près 20 millions d'habitants. Et là où il y a ces commerçants, c'est très peuplé. Ça suffit que ça allume le feu et après on savait que ça peut donner vraiment des choses intéressantes. Et le lendemain, ça a pris dans des autres villes comme Hamedan, comme Mashhad, qui sont aussi des grandes villes. Et aussi les mouvements étudiants. Ils ont commencé à contester et commencer à soutenir les commerçants. Et du coup, le mouvement, il rentre dans une autre phase et c'est des autres composants de la société qui font avancer le mouvement. Après le 4e jour, ça arrive à Lorestan, c'est une région très périphérique, c'est en Provence, où il y a une minorité ethnique qui s'appelle Lor qui habite, qui sont très précaires. Mais là, du coup, on arrive sur les villes après 5-6 jours où on n'a jamais entendu les noms. Et là, vraiment, il y a une rupture par rapport aux révoltes précédentes parce que ça devient de plus en plus massif. Dans la rue, tout de suite, abat le régime, abat le dictature et aussi abat Khamenei. Une scène qui m'a touchée, dans une petite ville qui s'appelle Hachsin, qui est très proche de ma ville natale, il y a des femmes voilées de l'âge de nos mères, derrière les hommes, et tout le monde marche dans la rue, et c'était 5e ou 6e jour de la révolte, où tout le monde crie « Abba, dictateur, Abba Khamenei !» Je me suis dit « Waouh !» Pour nous, c'était les alliés de régime, parce que c'était les chiites. Franchement, si ces femmes-là, si ces hommes-là, ils disent « Abba Khamenei », là, ça veut dire « c'est quelque chose ». Et il y a une vidéo qui montre la jeunesse de Jafarabad avec une colère incroyable, la rage totale, qui crie « Abba dictature, Abba Khamenei, on n'a rien à perdre, on va jusqu'au bout, jusqu'à la révolution ». Et les gens, ils savent qu'ils vont être tirés, mais ils sont tellement en colère qu'il avance directement vers les forces militaires qui sont dans la rue. Ils sont prêts à se sacrifier, vraiment, à donner leur vie. Ils n'ont rien à foutre qu'il y a vraiment des balles, qu'ils tirent avec les balles réelles. T'es complètement touché. Tu te dis, on est face, la chute de régime, elle est très proche. C'était vraiment un mélange de joie et de peur avant le 8 janvier. Et on écrivait par exemple sur les médias, la révolution, la chute de régime, il est proche. Mais regardez ces peuples courageux, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est incroyable. Et le 8 janvier, c'est le jour qui commence avec la grève massive des villes kurdes. Le soir, les grandes villes, Téhéran, Mashhad, Shiraz, Karaj, tout le monde, quasiment tout le monde va dans la rue. Du coup, on reçoit les vidéos massives des populations dans la rue qui chantent Abba Dictature, Makbeh Khamenei, etc. Ma petite sœur, par exemple, elle n'est pas militante. Mais la dernière fois que je l'ai eue au téléphone, c'était avant le 8 janvier. Et elle m'a dit, écoute, cette fois-ci, j'irai dans la rue. Et ça m'a beaucoup étonnée. J'arrêtais pas d'en parler avec mon copain, de dire, vas-y, je pense que cette fois-ci, ça va être autrement. Même ma petite sœur, elle a dit, cette fois-ci, j'irai vraiment dans la rue. Et le soir, et le lendemain, c'était le coupeur d'Internet. On n'a plus de nouvelles. Les rares vidéos qui sortaient, c'était horrible. Par exemple, il y a une vidéo qui montre en 6 minutes, on a 250 balles qui ont été tirées. Juste une petite vidéo de 6 minutes. Et aussi les vidéos des corps qui sont dans les sacs noirs qui ont été rejetés à Kahrizak. Les familles ils vont chercher les corps. Et certains corps, ils sont tellement détruits que c'était très difficile pour les familles de reconnaître les visages des personnes tuées. En fait, depuis 9 janvier, la répression c'est intense, c'est-à-dire tu sors, tu risques vraiment ta vie. De plus en plus, ils tirent sur les manifestants et le régime il utilise toutes les appareils répressifs qu'il a utilisés en 2022, qu'il a utilisé dans les révoltes précédentes. Du coup, il est très expérimenté. Par exemple, scanner les gens qui sont dans la rue, et du coup, ils peuvent les chercher plus tard. Tu peux être reconnu pour le système et être arrêté le lendemain, et aussi dénoncé par des autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés après, et on ne sait pas dans quelle situation ils se retrouvent. Si on sait un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la rue, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé dans la prison. Et il y a beaucoup de gens qui se sont soignés chez eux, chez elles, parce que si tu es blessé, tu es à l'hôpital, tu peux être arrêté et amené en prison. Mais la répression, elle n'a jamais arrêté les gens en Iran. Les gens, ils n'ont rien à perdre. Ce sont des sacrifices, des soldats de mort aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette vie, parce qu'il n'y a pas de vie en Iran. Il n'y a plus de vie, en fait. Vous voyez des sacs où il y a des corps dedans, les sacs noirs à l'hôpital, les corps des personnes tuées. Ce sac-là, c'est l'Iran. C'est vraiment un sac fermé où tu ne peux pas respirer. Tu n'as pas d'autre choix qu'aller dans la rue. C'est très difficile de dire à quel point la population iranienne elle est pro-père la vie, pro-fils de chat. Parce que, par exemple, il y a à peu près 40% de population qui n'est pas perse en Iran. Et qui a un grand problème avec le nationalisme de fils de chat. Du coup, le fils de chat, il a très très peu de légitimité chez ces populations minoritaires et minorisées plutôt non-perses. Et surtout, du coup, le fils de chat qui est proche de Trump et Israël, il est allé au Israël plusieurs fois. Du coup, ce sont les alliés. Du coup, avec cette récupération d'extrême droite à travers le fils de chat, il y a aussi la menace de l'invasion, de l'intervention militaire des États-Unis. Ça peut détruire complètement la révolution populaire qui est en train d'avancer par le bas, par la population. Pour moi et pour mon collectif, on est vraiment contre tout type d'intervention militaire, armée, étrangère. L'extrême droite iranienne, du coup les royalistes, ils sont nationalistes et vraiment contre tous les principes qu'on défend ici depuis 3 ans. Pour nous, c'est très clair notre position. On n'est pas obligé de choisir entre deux monstres. Nous défendons une troisième voie. Notre mode d'ordre, c'est fin, vie, liberté. Et pour nous, il faut choisir les peuples. C'est au peuple en même de décider qu'est-ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent une révolution, il faut les défendre. Moi, j'ai presque arrêté ma vie. Je viens de commencer un nouveau job, mais j'ai presque rien fait. J'ai trop envie de parler avec... avec mes sœurs. J'avais l'habitude d'entendre la voix de mes sœurs tous les jours. Ils me manquent. Et aussi mes amis. Je suis très inquiète vraiment pour certains amis qui ont l'habitude d'être dans la rue. Je serais très 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 contente d'avoir leur voix, de les entendre.
Je suis Hilda Degani-Schmidt. Je suis arrivée à l'âge de 13 ans en France. J'ai 58 ans, donc ça fait 45 ans que j'habite en France. Mon père me disait toujours « Je soutiens mon drapeau, mon peuple et ma patrie ». Maman était royaliste. Mon père nous a fait partir avec maman parce qu'elle faisait partie de ces femmes qui ont manifesté jusqu'au dernier moment contre le fait qu'on leur impose le voile. Les dernières femmes se prenaient de l'acide sur le visage et maman n'a jamais voulu, même après ça, porter un voile. Donc elle se portait des énormes coiffes sur la tête. Par ailleurs, mon père avait le projet de commanditer un coup d'État et il voulait pas que nous puissions être entre les mains du régime. Et donc, papa a commandité son coup d'État, il a été arrêté et il a été fusillé. Et déjà à l'époque, ils l'ont enterré, ils ont réclamé les prix des balles à la famille. J'avais 16 ans quand il a été fusillé, papa. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé dans les médias français ou internationaux, mais nous qui suivions les informations au quotidien en Iran, je voyais bien que la vie devenait de plus en plus difficile. Depuis l'été, les coupures électriques, les coupures d'eau. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait la braise en permanence. On savait tous que ça allait péter. On savait qu'une étincelle ferait péter les choses, mais on ne savait pas quelle était cette étincelle. Les événements ces derniers jours, c'est d'une violence inouïe. Quelquefois, on a des Iraniens qui sont sortis du territoire. À chaque fois, ils nous disent « ce que vous voyez comme image n'a rien à voir avec la réalité. Quand vous verrez la réalité, vous deviendrez fou. » Et en tant que franco-iranienne, je peux vous dire que j'ai peur qu'une nouvelle fois, mon État négocie sur le dos de ce peuple qui se bat contre ce régime pour des intérêts à court terme. En revanche, il y a un espoir énorme, parce que ce qui a souvent manqué dans les précédents soulèvements, c'est le fait d'avoir un leader. Très vite, les gens ont commencé à appeler Reza Pahlavi, qui est le prince héritier du dernier Shah d'Iran. En fait, les tueries ont commencé quand ils ont appelé Pahlavi. Les gens ont tenu. Et ensuite, il y a eu l'appel de Pahlavi en disant « sortez plus nombreux ». Et là, ils ont fait une tuerie de masse. Reza Pahlavi, depuis 45 ans, tous ses discours, il parle de l'autodétermination de la population, de la démocratie, d'un état de droit et des valeurs des droits de l'homme. En fait, c'est un socialiste pour moi, ce mec, parce que ce monsieur, ce roi, pardon. Mais en fait, un régime, ce n'est pas ça qui fait la politique. On peut avoir une république de gauche ou de droite, tyrannique ou démocratique, on peut avoir une monarchie de gauche ou de droite. Et l'Iran, c'est le pays des rois, des mages et des poètes. Et c'est pas par idéologie que je vais aller écrabouiller, comment dire, mon héritage culturel, parce que ça serait le chat ou pas le chat. Le peuple iranien n'étant pas armé et ayant en face de lui un régime tyrannique, ce peuple ne pourra pas s'en sortir sans l'intervention extérieure. J'aimerais que les autres États, dont la France et l'Europe et les États-Unis et Israël et tout le monde libre, viennent en aide à ce peuple qui est à main nue devant des tyrans comme rarement l'histoire de l'humanité a vu.
Et comment vous vivez le soutien de l'extrême droite au mouvement qui soutient le chat ?
Je regrette que les autres ne soutiennent pas suffisamment. Ceux-là sont peut-être plus visibles parce qu'ils sont nombreux et parce que la gauche est moins nombreuse, mais le soutien est de toutes parts et notre rôle, c'est d'avoir ce soutien de toutes parts pour sauver l'Iran. Parce que moi, ma responsabilité, et quoi qu'il m'en coûte, c'est de porter la voix de ce peuple qui se meurt, qui prend des balles. Le mot d'ordre, c'est la voix des Iraniens. On a entendu donc mort à Khamenei, on a entendu abat la République islamique, ni Gaza ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran. C'est notre dernier combat, Pahlavi reviendra. Moi, je n'ai jamais porté de drapeau avec une couronne ni de photo de personne. mais là, je le ferai probablement. Je porterai probablement la photo de celui qu'ils ont désigné comme étant le responsable du renversement du régime.
Je m'appelle Fourour, j'ai 60 ans. Je viens d'une famille, d'une petite famille de 5 personnes. Une famille modeste. Mon père, il travaillait à la banque et ma mère, femme au foyer. En 1981, mon cousin de 16 ans a été arrêté et 2 mois après, il a été exécuté. 2 ans après, c'était mon frère de 23 ans qui a été exécuté. Ils étaient sympathisants d'une partie politique gauche iranien. Et mon père, il avait fait une crise cardiaque le jour qu'il a entendu l'exécution de son fils. Et il est décédé un an après, de chagrin. Avec l'arrivée de République islamique au pouvoir, au début, on pensait que oui, ça y est, c'est bon, on a fait sortir une dictature et ça va être liberté. Tout le monde pensait que ça va être ça. Mais dès son arrivée en Iran, on a su qu'on est tombé dans une piège. Et ça fait 47 ans que ça dure, cette piège. Je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans, en 86. J'étais venue pour rendre visite à mon petit frère, qui était déjà en France en tant que réfugié politique. C'était juste pour rester quelques mois. Mais quand j'étais là, ma famille en Iran, ils ont demandé à mon frère si c'était possible que je ne parte pas en Iran, parce que j'étais recherchée aussi. À l'époque, j'étais sympathisant d'une partie politique iranienne de gauche qu'ils appelaient Fadayi. Du coup, on a fait une demande de réfugié politique en 86 pour moi aussi. Mais je voulais pas rester en France, je voulais partir en Iran parce que je voulais pas laisser ma mère seule. Et ma mère, il dit, bah, je préfère que tu sois loin de moi, dans un pays où je sais que tu es en liberté, en santé. Du coup, depuis, je suis en France. Là, maintenant, j'ai la nationalité française, mais j'ai quitté l'Iran, mais l'Iran, il ne m'a jamais quitté. Cette fois-ci, quand le mouvement a commencé, je dis, je ne me donne pas d'espoir. À chaque fois qu'il y avait un mouvement qui a commencé, j'avais l'espoir, oui, non, c'est bon, cette fois-ci, c'est la fin. Et à chaque fois que ça a échoué, j'étais dans un état moralement mais horrible. Mais cette révolte-là, celle de 2026, c'était sans précédent. Quand il y avait des révoltes, c'était dans les grandes villes, c'était à Téhéran. Mais là, moi, j'ai vu le monde qui sortait dans la rue. Les manifestations de masse qui étaient à Téhéran, même dans les tout petites villes, des villes qu'on n'avait jamais entendues, cette ville-là, que ça existait en Iran. Et tu voyais des gens de tout âge dans les manifestations. Et il y avait des gens qui venaient en fauteuil roulant dans les manifestations. Les gens, ils venaient avec leurs enfants dans le poussette dans les manifestations. Et là, ça me donnait... J'avais l'espoir. Et là, depuis le coupure d'Internet, sans nouvelles de personne, et c'est très, très, très dur. J'ai beaucoup de familles en Iran. Je suis en contact régulier avec ma famille, surtout mes cousines. Du coup, j'étais inquiète pour ma famille parce que je n'avais pas de nouvelles de personne. Mais il y avait un petit relâchement au niveau d'appels téléphoniques. J'ai pu avoir ma cousine qui nous a raconté que le jour qu'ils ont coupé l'Internet, c'était un jeudi, et dans cette manifestation, il y avait pratiquement toute ma famille qui manifestait à Rasht, dans le nord de l'Iran. Les gens, ils étaient manifestés, mais pacifiquement, comme dans toutes les villes de l'Iran. Ils sont pas armés. Ils demandent juste un peu de liberté. Et il y a un grand bazar au Rasht, qui est un bazar circulaire. Et une fois qu'ils ont commencé à attaquer les gens, les milices, ils ont commencé à attaquer les gens, ils sont allés se réfugier dans le bazar. Ils ont mis le feu au début du bazar de Rasht. Et comme c'est circulaire, d'un boutique à l'autre, le flamme attaque l'autre boutique. Et les gens, ils avaient deux choix. Soit ils restaient brûlés, soit ils sortaient. Et les gens, pour se sauver, ils ont sorti. Et le milice, ils ont encerclé les gens. ils ont commencé à taper et à tirer avec les fusils de chasse. Ils tuaient les gens comme des oiseaux. Et les gens, ils tombaient l'un après l'autre. Ma cousine, il a couru dans un petit ruelle. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont tiré dans le dos avec des balles de plomb. Elle a reçu 60 balles de plomb dans le dos. Et à un moment donné, ils ont pensé qu'il est mort. Ils ont donné des coups de pied. Et puis, ils sont partis. Elle a pu se traîner jusqu'à une petite épicerie qui était au bout de la rue. Et le monsieur de l'épicerie qui l'a amené dans l'arrière-boutique, qui a appelé les secours pour qu'on vienne l'emmener. Concernant son mari, ça m'a bouleversée et j'étais en pleurs avant-hier toute la journée. C'était que quand ils l'ont tiré, une fois qu'il était tombé par terre, était touché, blessé, il saignait. Ils sont venus avec des matraques, on le tapait sur lui encore. Il avait sa tête sur le genou de sa fille de 17 ans. Il est mort dans les bras de sa fille de 17 ans. Et eux, ils voulaient emmener la petite avec eux. Et là, il y avait des gens qui l'ont aidé pour qu'on ne puisse pas l'arrêter. Je ne sais pas dans quel régime on voit ce genre de choses. Il y a un autre truc qui n'est pas inédit parce que c'est déjà arrivé en Iran. Quand les gens ils vont aller récupérer le corps de leurs enfants, on demande de l'argent. Le régime demande de l'argent et là, ils demandent beaucoup d'argent cette fois-ci. C'est le prix de balle. S'il a une balle dans la tête et qu'il est mort avec une balle, ça coûte tant. S'il y a trois balles qu'il a reçues, ça coûte tant. C'est le balle qu'ils ont utilisé pour tuer ton cher enfant ou mari ou frère. Et là, c'est ce qui est nouveau. Soit tu payes, soit tu me donnes sa carte d'identité pour dire que c'est les manifestants qui l'ont tué. Du coup, tu peux le prendre gratuitement. Mais vous voyez, la perversion dans ce régime, mais ce n'est pas possible. Le régime iranien, il a eu peur. Il s'est vu partir. Mais là, il dit, je vais rester coûte que coûte pour garder le pouvoir et garder toutes les richesses du pays. Et s'il faut massacrer tous les Iraniens, ils le feront. Le peuple iranien, ils se sont battus pendant 47 ans. Et j'espère vraiment que cette révolte va être le dernier. J'espère qu'ils vont vraiment arriver cette fois-ci. J'espère que de mon vivant, je verrai le chute de ce régime. Khamenei, j'aimerais d'aller danser sur sa tombe et dire t'as vu, on t'a eu quand même. C'est la fin.
C'était Iranienne de la diaspora, de l'espoir à l'effroi. Un reportage de Pauline Chanu réalisé par Eric Lancien. Merci à Shirin Ardakani, à Bar Makoui, à Razal Golshiri, à Ayla Navidi, à Razal Razemi, à Javad, à Mariam Levy et à Zeynab Gorbani. Et comme toujours, spéciale dédicace à la mémoire de Farangis Habibi. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Ready?